Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Sous l'Ancien Régime, la population de la France était divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Cette phrase, tirée d'un site internet, nous la connaissons tous inconsciemment, nous l'avons tous lue dans nos vieux manuels scolaires de primaire, parfois de secondaire. Elle désigne pour nous la société d'Ancien Régime, avec ce que cela suppose, avec ce que cela sous-entend d'immobilisme, d'absence d'innovation et d'ouverture. Pour les historiens marxistes, cette société n'était pas une société d'ordre, mais une société de classe. Pour d'autres, enfin, et par opposition aux deux premières définitions, cette société fut avant tout une société de corps, de corporation. Pourtant, disons-le d'emblée, tant la première définition que la deuxième et même la troisième ne nous donnent pas satisfaction. Nous le savons, l'idée d'une société de classe, tout comme celle d'une division tripartite de la société d'avant 1789, sont le fruit d'une vision idéologique. Saint-Jean, la réalité de l'Ancien Régime. J'allais dire les réalités de l'Ancien Régime, car la société du temps d'Henri IV fut bien différente de la société du temps de Louis XIV. Chacune d'entre elles offre à l'observateur, à l'historien, une richesse et une diversité que l'on ne soupçonne guère. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ces réalités, de partir à la découverte de cette société du XVIIe siècle qui mêle à la fois la tradition, l'innovation et l'ouverture, une société non pas sclérosée, mais dans laquelle règne une réelle mobilité sociale. Michel Verger-Franceschi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie.
Vous êtes merci à vous.
Historien, professeur à l'Université de Tours. Alors vous avez consacré votre thèse d'histoire sur les officiers généraux de la Marine royale, spécialiste donc de la Marine, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Vous avez aussi cette année remporté le prix Georges Goyot de l'Académie française pour votre ouvrage « Paoli, un Corse des Lumières », un ouvrage paru chez Fayard. Et c'est chez ce même éditeur, Fayard, donc, que vous venez de publier « La société française au XVIIe siècle » avec comme sous-titre les trois mots que j'ai repris dans mon introduction « Tradition, innovation, ouverture ». Alors, ma première question, Michel Verger-Franceschi, sera assez simple. Quand avez-vous pris conscience dans votre parcours d'historien, quand avez-vous pris conscience de cette complexité sociale au cours de vos recherches? C'est en étudiant la marine?
Oui, c'est en étudiant la marine, donc c'est très tôt, puisque je travaille en histoire maritime et en histoire sociale depuis une trentaine d'années, depuis 1973, et je lisais dans de vieilles revues, la revue d'histoire maritime et coloniale, la revue d'histoire de la marine, des choses qui étaient tirées des ordonnances, c'est-à-dire que pour être officier de marine sous l'Ancien Régime, il fallait avoir 4 degrés de noblesse paternelle, donc un père, un grand-père, un arrière-grand-père noble, et on donnait assez souvent l'idée d'une société qui était donc relativement fermée sous l'Ancien Régime. Si on était noble, on pouvait être officier. Si on n'était pas noble, on pouvait être matelot. Et on avait donc cette caricature qui nous était présentée comme une réalité. Et puis, je regardais à l'époque des ouvrages simples mais très complets, comme le Petit Larousse, et on voit dans le Petit Larousse que les seuls 4 grands officiers généraux de la marine de l'Ancien Régime sont des gens comme Jean Bart, Duguay-Trouin, Duquesne, Surcouf, et tous sont nés roturiers. Et là, il y avait quelque chose qui était donc paradoxal. Comment Jean Bart était-il chef d'escadre alors qu'il était fils de pêcheur? Comment Duguay-Trouin était-il lieutenant général des armées navales, c'est-à-dire l'équivalent d'un vice-amiral aujourd'hui, alors qu'il était le fils orphelin d'un petit armateur malouin? Comment Abraham Duquesne était-il lieutenant général des armées navales alors que son grand-père était cordonnier à Blangy dans le comté d'Eu? Et donc, très tôt, par le biais de la marine, je me suis rendu compte que la société n'était pas du tout cette société tripartite que vous venez de décrire à l'instant, une société donc où la naissance faisait absolument tout, mais au contraire, la société d'Ancien Régime est comme nous d'ailleurs aujourd'hui, une espèce de nébuleuse, et ce terme d'ordre est un petit peu choquant dans la mesure où il n'y a qu'un véritable ordre qui est le clergé, puisqu'il y a une date d'entrée dans le clergé, lorsqu'on est ordonné prêtre, lorsqu'on devient religieuse, mais entre la noblesse et entre le tiers-état, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite parce que on a des usurpateurs de noblesse, on a des gens qui s'agrègent à noblesse, on a des gens que l'on appelle des faux nobles, on a des bourgeois enrichis, on a des gens qui achètent des terres. Et par conséquent, il est très difficile de classer, si je puis dire, les gens en des groupes qui sont totalement séparés, totalement fermés. Ce n'est pas du tout une société de caste, au contraire. Et la mobilité sociale, la promotion sociale sont des choses qui ont toujours existé. Quand on pense que le maréchal Faber était fils et petit-fils de libraire, quand on pense que le maréchal d'Ornano, dont le père était plébéien, donc fils de San Piero Corso, était cordon bleu, c'est-à-dire qu'il avait l'ordre du Saint-Esprit, alors que cet ordre était réputé donné uniquement à des hommes qui pouvaient prouver leur noblesse sur 4 degrés, eh bien, on s'aperçoit que c'est une noblesse et que c'est une société qui est beaucoup plus ouverte qu'on ne le croit aujourd'hui.
Alors, c'est une société hétérogène, complexe, ouverte, vous venez de le dire, mais les trois ordres en fait se complètent, vous le dites dès votre introduction, ils se complètent, et pour exprimer cette idée, vous utilisez la fable de La Fontaine.
Oui, c'est une fable qui m'avait beaucoup plu et qui m'a plu il y a très longtemps, puisque je devais être en quatrième, je crois, au lycée de Toulon, et c'est les membres et l'estomac. Et en effet, dans une société, et c'est toujours le cas heureusement aujourd'hui, tout le monde a besoin de tout le monde. Et il suffit, on s'en aperçoit lorsqu'il y a une grève d'une corporation ou d'un métier, que ce soit le métro, la poste ou les éboueurs ou les enseignants, on s'aperçoit l'implication que cela a sur les autres groupes sociaux. Et donc cette fable qui est tirée d'Ésope, qui avait été à l'origine donc de l'inspiration de La Fontaine, eh bien cette fable montre bien que l'estomac, c'est-à-dire le roi, n'est pas quelqu'un qui profite et qui mange les deniers de l'État pour lui tout seul. Il entretient les membres, les bras qui le nourrissent, les jambes qui le portent. Et j'avais trouvé, donc, lorsque j'avais 13 ou 14 ans, cette fable tout à fait symbolique de ce qu'est une société.
Alors, comment appréhender une telle société ? Vous avez pris le parti, si je puis dire, de diviser votre ouvrage en 22 chapitres. À quoi correspondent ces 22 chapitres ?
Et oui, j'ai fait 22 chapitres, ce qui est contraire à mes habitudes, où je suis assez sujet au plan ternaire en 3 parties et en 3 chapitres. Mais ce livre est tiré du tarif de la capitation, qui est un impôt qui est créé par Louis XIV entre 1694 et 1696, c'est-à-dire en pleine période de guerre, qui est la guerre de la Ligue d'Augsbourg. La France, avec ses 20 millions de sujets, est la première puissance d'Europe, est la puissance la plus peuplée d'Europe, mais elle a néanmoins besoin d'argent. 1694, c'est le grand hiver, c'est l'époque où le vin gèle dans les carafes du roi à Versailles, et cette France qui a besoin d'argent va donc créer un impôt par tête, d'où son nom de capitation, caput capitis, la tête, et donc la société française va être, entre guillemets, classé à partir de Monseigneur, c'est-à-dire le dauphin, donc fils aîné et fils unique de Louis XIV, et on va descendre donc dans la société jusqu'aux matelots étrangers qui sont dans la 22e classe. Et donc il y a 22 chapitres qui reprennent à peu près les 600 catégories qui compose la société française du XVIIe siècle, depuis les femmes de chambre, les matelots étrangers, les valets, les domestiques, jusque aux grands personnages de la cour, donc le dauphin, et puis la proche famille du roi, et également sa famille politique, si je puis dire, c'est-à-dire les secrétaires d'État, les ministres, les ambassadeurs, les grands diplomates, et quelques membres du clergé qui ne sont pas beaucoup cités dans ce tarif de la capitation, parce que le clergé en est exempt, mais par contre, on a des aumôniers, notamment les aumôniers de marine, les aumôniers militaires, parce qu'eux sont entretenus, c'est-à-dire, comme on le dirait aujourd'hui, rémunérés par le roi. Ils touchent une solde qui est à peu près voisine de celle d'un capitaine de vaisseau, et eux, quoique ecclésiastiques, quoique membres du clergé, sont mentionnés dans ce tarif de la capitation.
C'est un document unique ?
C'est un document unique et qui est difficile à appréhender. Bon, c'est un document que j'ai étudié pendant très longtemps, que François Bluche et Jean-François Solnau avaient étudié avant moi, à une époque où je suivais d'ailleurs le séminaire de François Bluche, moi, à l'université de Paris-Nanterre, il y a 30 ans, en 1976. Et on essayait, à l'époque, ensemble, avec Solnau et Bluche, de hiérarchiser un petit peu ces 600 catégories de Français pour savoir s'ils étaient, entre guillemets, classés en fonction de leur ancienneté de naissance, en fonction de leurs revenus, en fonction de leur richesse, en fonction de leur utilité. Et on s'aperçoit que tous ces facteurs, l'ancienneté du lignage, mais aussi l'illustration du lignage, et puis l'utilité, sont des facteurs qui sont étroitement combinés. Et on s'aperçoit qu'un roi qui est un roi intelligent, comme Louis XIV, eh bien, il préfère souvent un roturier utile, style Jean Bart, dont on disait qu'il ne savait ni lire ni écrire, mais qui était un corsaire extrêmement important, célèbre, qui justement, en cette année 1694, a pu ravitailler la France en blé. Eh bien, le roi préfère un corsaire roturier à un bon gentilhomme breton qui est complètement perdu dans son manoir ou dans sa Bastide provençale, qui est d'excellente naissance, qui a une famille qui remonte au XIIe ou au XIIIe siècle, mais qui ne rend aucun service. Par conséquent, il y a un critère d'utilité qui est à prendre en compte et qu'on ne prend pas suffisamment en compte lorsqu'on parle en termes de noblesse et de tiers-état seulement.
Alors c'est un énorme travail, hein. Vous le disiez, plus de 600 états, 600 métiers, c'est 30 ans de travail. Vous avez, j'allais dire, des centaines, mais ce sont des milliers de références, de biographies qui vous permettent d'étayer chacune de vos affirmations.
Oui, parce que j'avais fait, bon, il y a de cela fort longtemps, en 1987, une thèse d'état qui avait d'ailleurs amusé quelques membres de mon jury, en particulier Michel Mollat du Jourdain, qui m'avait dit, il faut avoir été avec vous portefait avant d'être professeur d'université, parce qu'il faut déjà porter la thèse donc jusqu'au jour de la soutenance, puisqu'elle faisait 15 volumes et 3547 pages. Et donc, dans ces 3547 pages, j'ai évidemment des officiers généraux que j'ai resitués dans l'ensemble de leur réseau, dans l'ensemble de leur milieu. Et donc, un officier général vit aussi bien avec son épouse qui n'est pas forcément du même milieu, qui peut être, comme la femme de Tourville, la fille, par exemple, d'un fermier général, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement riche. C'est l'une des dotes les plus importantes apportées à un officier de marine. Mais on a aussi les porteurs de la chaise à porteurs de Duguay-Trouin qui gagnent dans les 200 à 300 livres par an, ce qui est tout à fait honorable. Et par conséquent, on a des domestiques, des porteuses d'eau, des femmes que l'on va appeler des trayeuses de vaches ou des gardeuses d'oies. Et on a donc toute une société avec des notaires, avec des magistrats, avec des ecclésiastiques. Et par conséquent, ça c'est un petit peu une manie que j'ai dans mon travail, lorsque je travaille sur un individu, j'aime bien savoir beaucoup de choses. Vous faisiez allusion à Pascal Paoli tout à l'heure. J'aime savoir le maximum de choses sur cet individu, ses origines, ses parents, ses grands-parents, pour expliquer en partie le pourquoi de sa réussite, dans la mesure où aujourd'hui, on sait que des réseaux existent. Bon, il va y avoir le réseau des polytechniciens, des centraliens, la société des agrégés, bon, les anciens de telle ou telle campagne militaire. Eh bien, sous l'Ancien Régime, il n'y a pas évidemment de centraliens ou de polytechniciens, mais il y a un réseau familial. Et par conséquent, lorsqu'on s'aperçoit qu'une famille est très représentée dans tel ou tel secteur, si on prend la marine, on prend les Dachets de Cerquigny. Alors pourquoi les Dachets de Cerquigny vont-ils donner 10 ou 11 officiers de marine? Eh bien, lorsqu'on cherche le réseau familial, on s'aperçoit qu'ils appartiennent à la proche parenté du vice-amiral de Tourville. Et donc, à l'époque, on parle en termes de clientèle. Ce terme a été d'ailleurs mal perçu assez souvent au XIXe siècle, où on a dénoncé assez souvent l'Ancien Régime. Et on a un petit peu caricaturer la clientèle en la comparant à un clientélisme, en la comparant à un népotisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon, des gens comme Richelieu, comme Colbert, ont pratiqué évidemment le népotisme, mais c'est un népotisme intelligent, c'est-à-dire qu'ils ont, parmi leurs neveux, ils ont choisi des gens qui étaient susceptibles de rendre des services, et ils ont également su, à l'occasion, punir ceux de ses neveux servaient mal le roi. Donc c'est un népotisme, mais c'est un népotisme intelligent. Ça n'est pas une simple faveur éhontée, comme on pourrait le dire aujourd'hui, mais c'était le seul moyen surtout dans des périodes difficiles, la période de la Ligue, la période de la Fronde, de s'assurer que l'on était entouré de gens fidèles.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Je reçois Michel Verger-Franceschi, historien et auteur du livre « La société française au XVIIe siècle » paru chez Fayard. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans un instant. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Michel Verger-Franceschi, auteur du livre « La société française au XVIIe siècle, tradition, innovation, ouverture » paru récemment chez Fayard. Alors, nous évoquons cette société à travers ce tarif qui présente cette imposition de la capitation. 600 États, 600 métiers. Quel est le critère différenciateur d'une classe à une autre? On rappelle qu'il y a 22 classes, que tous les métiers se situent dans 22 classes différentes.
Oui, tous ces métiers sont hiérarchisés. Alors, il y a une primauté qui est donnée aux armées. Et lorsqu'on change de classe, on s'aperçoit que les rédacteurs du tarif ont suivi, en gros, les textes des ordonnances. C'est-à-dire qu'un maréchal de France va être au-dessus d'un vice-amiral de France, mais il est très voisin de ce vice-amiral. Et puis, dans une classe suivante, on va trouver les lieutenants généraux des armées du roi, puis les lieutenants généraux des armées navales, puis dans une classe inférieure, les maréchaux de camp et leurs homologues, les chefs d'escadre, et ainsi de suite, les capitaines de vaisseau, ainsi de suite. Donc, on a créé des classes à partir de hiérarchies qui sont des hiérarchies soit de magistrats, premier président, donc au Parlement de Paris, des conseillers au Parlement, des avocats généraux, des procureurs, et on a imbriqué étroitement toutes les catégories, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait deux ou trois classes sur les militaires qui auraient eu le pas sur les magistrats. Et on n'a pas fait ensuite deux ou trois classes de magistrats qui auraient eu le pas sur les fermiers généraux et sur les riches négociants ou marchands. Au contraire, on a imbriqué les militaires, les magistrats d'une façon extrêmement étroite, tout en les hiérarchisant. On s'aperçoit que l'armée de terre a toujours légèrement le pas, un petit pas de plus, sur les officiers de marine. On s'aperçoit que les officiers de marine ont un petit pas de plus sur les officiers des galères. Et ensuite arrivent les magistrats, mais à l'intérieur de chacune des 22 classes. Et donc on voit des jeunes gens bien nés, je pense par exemple aux gardes de la marine, qui doivent être en 21e ou 22e classe, qui sont des gens d'extraction parfois chevaleresque et qui ont une noblesse qui remonte aux croisades. Eh bien, ils sont rangés avec les maîtres d'hôtel ou avec des valets, ce qui a d'ailleurs dû les blesser dans leur orgueil de naissance d'une façon tout à fait considérable. Mais c'est vrai qu'un garde de la marine à 216 livres par an gagne moins que le porteur d'une chaise à porteur, donc à Paris, où une jolie marquise ou une vieille duchesse vont donner 250 à 300 livres à leur porteur.
Alors, vous divisez quand même votre livre en trois parties. Il y a 22 chapitres, 22 classes, mais vous le divisez en trois parties. La première partie sont les sphères politiques, où là, c'est le critère, les hautes sphères politiques, où là, c'est le critère de pouvoir, du pouvoir politique qui prime.
Tout à fait. Il est évident que dans la première partie de la société, d'ailleurs un petit peu comme aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on oppose tant l'ancien régime qu'il faudrait bannir par rapport à la société d'aujourd'hui. Chaque société repose sur des critères tout à fait analogues. Et il est évident qu'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup plus Sarkozy ou Ségolène Royal qu'un magistrat du fin fond de la province. Et c'était exactement pareil au XVIIe siècle, où les sphères politiques, c'est-à-dire des gens comme Colbert, des gens comme Louvois, sont connus, pas physiquement, puisqu'évidemment, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de médias, on ne connaît pas forcément le visage d'un François Ier ou d'un Henri IV. Et on sait tous qu'on a arrêté donc Louis XVI à Sainte-Menehould en reconnaissant son visage sur une pièce de monnaie. Donc, il est évident qu'on ne les connaît pas physiquement, mais des noms comme ceux de Colbert ou de Louvois sont connus dans l'ensemble du royaume. Et donc, le critère de pouvoir politique pèse beaucoup plus que la naissance. Quand on regarde, bon, j'ai fait un Colbert il y a quelques années, une biographie de Colbert, eh bien, Colbert n'était pas un homme d'illustre naissance. C'est une famille de riches marchands, de riches négociants de Champagne, de la région de Reims, et les ancêtres de Colbert au XIVe, XVe siècle étaient de simples maçons champenois qui sont devenus petit à petit architectes, banquiers, gens d'affaires, nous dirions, et les gens comme Louvois, comme les Pontchartrain, comme les Beauharnais, sont des gens qui sortent souvent de familles marchandes, qui sortent de la grande chaussée d'Orléans, pour les Beauharnais, par exemple, et ces familles appartiennent aux sphères du pouvoir en tant que secrétaires d'État, même s'ils ne sont, et le terme de secrétaire est important, même s'ils ne sont que secrétaires. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas l'équivalent un petit peu de nos ministres, même s'ils jouent un rôle politique considérable, ils sont quelque part les héritiers des secrétaires des commandements de Sa Majesté. C'est-à-dire que Sa Majesté commande et le secrétaire à l'origine est là pour écrire les ordres du roi. Mais quand on voit ensuite dans le détail ce que font ces secrétaires d'État, qu'on s'aperçoit que Colbert écrit à peu près 70 lettres par jour pendant les 22 ans où il est au pouvoir, de 1661 à 83, que Louvois écrit à peu près 72 lettres par jour pendant qu'il est secrétaire d'État à la guerre, eh bien le rôle de ces secrétaires d'État est évidemment considérable.
Alors à Versailles, vous le dites, les gens qui sont à Versailles ne font pas tous partie de ces premières classes. Et il y a des hommes que l'on retrouve dans la première classe, il y en a d'autres que l'on ne retrouve pas, qui vivent pourtant à Versailles, qui côtoient le roi, notamment tous ceux qui sont dans le domaine culturel, les architectes, etc.
Bien sûr, alors là, il y a une sorte de dévaluation. Bon, aujourd'hui, nous connaissons tous Racine, Corneille, Molière, La Fontaine, et ces gens-là n'apparaissent pas en tant, si je puis dire, que star, bien que le terme soit mal choisi sur Canal Academy, donc ils n'apparaissent pas en tant qu'étoile du spectacle ou en tant que gloire nationale. Nous les connaissons dans nos collèges, nous les connaissons dans nos lycées, mais ce sont des gens qui ont d'autres professions, d'historiographe du roi ou de magistrat comme Corneille, historiographe comme Racine, et ils gravitent donc dans l'entourage du roi en tant qu'artiste comme Lebrun, en tant que sculpteur, en tant que peintre, mais ils ne sont pas effectivement dans les premières classes, puisque l'artiste depuis le XVIe siècle est quelqu'un qui est en train de se dégager de l'artisan, mais quelque part c'est encore l'héritier de l'artisan, et ça n'est pas encore l'artiste tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui est extrêmement médiatisé au point d'être plus célèbre que des gens souvent plus utiles. Ça n'est pas gentil ce que je dis pour les artistes, mais par rapport à un grand chirurgien, par rapport à un grand cancérologue, par rapport à un grand savant qui rend d'extrêmes services à l'humanité, il est évident que beaucoup de chanteurs, beaucoup d'artistes sont aujourd'hui à une place qui fait qu'ils sont beaucoup plus connus que de très grands médecins ou que de très grands philosophes ou que de très grands penseurs.
Nous reviendrons sur cette notion d'utilité qui est très importante et que vous reprenez à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Je reviens tout de même sur cette notion culturelle. Quand Racine, dans son discours à l'Académie française, ose affirmer l'égalité entre la gloire des lettres et celle des armées, c'est un geste de bravoure.
C'est un geste de bravoure, mais c'est aussi quelque chose d'assez vrai. Yves-Marie Berset avait eu, qui était directeur de l'École des Chartes ces dernières années, avait eu une très belle formule en disant qu'entre le XVIe et le XVIIIe siècle, nous passons d'une époque à la Bayard à une époque à la Rousseau. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde le nombre d'années de guerre sous Louis XIV, on s'aperçoit qu'on doit avoir à peu près dans les 5 50, 54 années de guerre, en cumulant toutes les guerres de Hollande, de la Ligue d'Augsbourg, de la guerre de succession d'Espagne, etc. Donc un demi-siècle de guerre en 72 ans de règne. Quand on regarde sous Louis XV, on n'a plus que deux guerres de 4 et 7 ans, la guerre de succession d'Autriche et la guerre de 7 ans. Et quand on regarde sous Louis XVI, on n'a plus qu'une guerre qui en plus se joue sur un sol étranger qui est la guerre d'indépendance américaine, 5 ans, c'est-à-dire 50, 11 et 5. Donc on est bel et bien en train de constater, comme l'a dit Racine, que l'on est en train de passer d'une époque qui est extrêmement militarisée, qui est une période de guerre, à une période où la plume, celle de Montesquieu, celle de Voltaire, va peu à peu remplacer l'épée d'un Turenne.
Alors déjà, il y avait eu un changement que vous présentez entre la société de l'époque d'Henri IV, qui était une société très rustique, au temps de Louis XIV. Même si, bien évidemment, le temps de Louis XIV, 72 ans de règne, c'est bien évidemment un règne qui évolue dans le temps, qui ne reste pas monolithique.
Bien sûr. Et alors, on dit souvent l'époque de Louis XIV. L'époque de Louis XIV, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu amusé parce que 72 années de règne, c'est un petit peu, ça correspond à la période qui, en France, commencerait en 1934 pour arriver en 2006. Alors, quand on me dit la marine, puisque évidemment, je parle beaucoup de marine de Louis XIV, ça ne veut pas dire grand-chose parce que est-ce qu'un bâtiment aujourd'hui, est-ce qu'un sous-marin de 2007 ressemble à un bâtiment de 1934, il est évident que le temps passe. Et sous Louis XIV, il faut bien voir que le roi a régné pendant plus de 10 de nos septennats actuels. Et par conséquent, 72 années de règne, lorsque vous comparez un bateau des années 1710 de la guerre de succession d'Espagne avec un bâtiment des années 1640, il s'est passé évidemment 60 ou 70 ans d'évolution de technique, de technologie. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ce sous-titre. Donc, innovation. Lorsque Louis XIV prend conscience, par exemple, qu'il faut aller bombarder les ports barbaresques, qu'il faut donc pouvoir bombarder à partir de la mer la terre, c'est-à-dire bombarder à partir d'un vaisseau, d'un navire, d'un bâtiment, qu'il va falloir bombarder Alger, ce que l'on va faire en 1682 avec un certain échec et en 1683 avec plus de succès, eh bien, il faut inventer un nouveau bâtiment. Et ce nouveau bâtiment, ce sera les galiotes à bombes qui sont créées par un ingénieur basque qui est Renaud d'Elissagaray, qui pour la première fois va permettre à des mortiers donc de bombarder la terre à partir de la mer. Et donc, à partir du moment où il y a un nouveau bâtiment qui est la galiote à bombes, dans la société, il va y avoir une catégorie de personnes qui vont servir sur ces bateaux. Et on va donc avoir des capitaines de galiote à bombes qui apparaissent d'ailleurs dans le tarif de la capitation, des lieutenants de galiote à bombes, etc. C'est un petit peu comme aujourd'hui dans l'éducation nationale. Entre 1934 et 2007, on a des professeurs d'informatique qui sont apparus. Il est évident qu'on n'avait pas de professeurs d'informatique dans les années 30. Et donc, la technique impose à une société de s'adapter. Et donc la société du XVIIe siècle n'est pas du tout une société qui serait figée, c'est une société qui s'adapte. Et puis le barbier du Moyen-Âge se sépare de plus en plus du coiffeur, parce que le coiffeur dont le nom apparaît vers 1650, eh bien il va s'occuper des perruques, il va s'occuper des cheveux, et le barbier va évoluer vers le chirurgien. Et donc on a une séparation qui aboutit aujourd'hui à deux professions, donc le coiffeur d'un côté et le chirurgien de l'autre. Et donc le XVIIe siècle est vraiment un tournant de cette société.
Alors, autre aspect justement du XVIIe siècle, c'est la percée sociale de l'homme d'argent que l'on retrouve au fur et à mesure de votre ouvrage.
Oui, l'homme d'argent est de plus en plus présent et on est même surpris de voir les fermiers généraux, dont on parle parfois avec un certain mépris en raison de leur manque de naissance, ou des hommes d'argent comme Morin, qui était le beau-père du vice-amiral d'Estrée, que les contemporains surnommaient Morin le Juif parce qu'on lui reprochait d'être très riche et très avare. Eh bien, ces fermiers généraux sont dans les premières classes de la société, à côté de gens qui sont d'une extraction chevaleresque et qui sont d'une noblesse et d'une ancienneté de lignage tout à fait exceptionnelle. Et donc ces hommes d'argent, ces financiers qui ont bien été étudiés ces dernières années par des collègues comme Françoise Bayard par exemple, eh bien ces financiers, ces hommes d'argent, ces banquiers se multiplient au cours du XVIIe siècle parce qu'on est passé à une époque donc où l'argent, où l'économie, où les échanges sont de plus en plus importants, et notamment dans les ports, avec un basculement là aussi qui annonce le XVIIIe siècle, un certain déclin qu'on ne peut pas exagérer de la Méditerranée, notamment parce que les Anglais s'installent à Gibraltar à partir de 1704, pendant la guerre de succession d'Espagne, et ce déclin entre guillemets de la Méditerranée aboutit à un essor de l'Atlantique, et peu à peu, Bordeaux au XVIIIe siècle va supplanter plus ou moins Marseille, et surtout Brest va devenir le grand port de guerre, alors que c'était Toulon jusqu'à présent qui était le grand port de guerre depuis Charles VIII, et ensuite avec le développement de l'arsenal sous Richelieu et Colbert. Donc on a un basculement vers l'Atlantique avec tout ce que cela induit en apport de métaux précieux qui arrivent depuis le XVIe siècle par l'Espagne, qui arrivent par Cadix, qui arrivent par Séville, et l'argent effectivement n'est pas du tout, même s'il le reste un petit peu dans la conception, dans le mental collectif, ça n'est pas du tout un argent sale, et les proverbes en témoignent. Lorsqu'on commence à dire riche, vilain, vaut mieux que pauvre, gentilhomme, je l'ai mis d'ailleurs à un moment en titre de l'un des chapitres, donc au XVIIe siècle, lorsqu'on commence à dire qu'il faut redorer le blason, eh bien, on voit bien que la noblesse désargentée est très heureuse d'échanger le nom d'un fils contre la dot de la fille d'un riche fermier général.
Nous nous retrouvons, Michel Verger et Franceschi, dans un instant.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages primés par les académies. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Nous reprenons le cours de notre émission. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Michel Verger-Franceschi, historien, auteur du livre « La société française au XVIIe siècle » paru chez Fayard. Alors, nous évoquons cette hétérogénéité, cette ouverture. Existe-t-il, on a tendance souvent à opposer d'un côté Paris, de l'autre la province. Est-ce qu'il existe des liens dans la société du XVIIe siècle entre ces deux entités ?
Oui, il existe d'ailleurs des liens qui sont très voisins des nôtres aujourd'hui, où on a un petit peu l'impression, même si elle est relativement fausse, que pour réussir, entre guillemets, il faut monter à Paris, comme on le dit en province. Et lorsqu'on voit le cheminement des carrières, que ce soit les carrières des militaires, que ce soit les carrières des magistrats, eh bien, on s'aperçoit que on monte effectivement de la province vers Paris tout au long du XVIIe siècle. Il faut d'abord avoir une sorte d'illustration locale. Pour les marins, on parlait de Jean Bart en introduction. Il est évident que Jean Bart, fils de pêcheur dunkerquois, eh bien, il commence à être connu à Dunkerque par les prises qu'il fait. Et puis, cette renommée va lui rapporter donc une épée, qui est la première marque d'honneur que le roi va pouvoir lui donner. Et une fois qu'il a cette épée, lorsqu'il continue à briller sur mer, il entre dans la marine comme lieutenant de vaisseau. Et puis, un beau jour, donc promu capitaine de vaisseau, anobli en 94, il arrive jusqu'à la cour, il arrive à Versailles. Et donc, on a un peu, comme aujourd'hui, un phénomène d'absorption des élites par Paris. Et on s'aperçoit que des grandes familles de magistrats, comme les Nesmont, par exemple, qui ont toujours leur hôtel aujourd'hui sur l'un des quais de Seine, où l'on voit gravé dans la façade ci-devant hôtel de Nesmont. C'est la première fois, d'ailleurs, que l'on a gravé un nom sur un hôtel. Et c'est de là que viennent nos plaques aujourd'hui, avec nos numéros sur les maisons pour les identifier sur les rues et les boulevards. Eh bien, les Nesmont sont des gens qui étaient parcheminiers d'Angoulême, qui sont donc montés à Bordeaux où ils sont devenus magistrats. Ils ont gravi les différents échelons de la hiérarchie du Parlement à Bordeaux, et puis ils sont arrivés donc jusqu'au Parlement de Paris. Et ce phénomène d'absorption par la capitale, une thèse avait été écrite là-dessus en 1947 qui était Paris et le désert français, eh bien, on peut déjà dire qu'au XVIIe siècle, les les élites essayent de monter à Paris, même s'il y a encore une vie culturelle, une vie notamment en matière de sculpture de meubles, en matière de gastronomie, en matière de peinture, une vie provinciale qui demeure très riche. Aujourd'hui encore, on a l'héritage des terroirs, l'héritage du mobilier, donc des 17 et 18e siècles, qui sont des mobiliers locaux.
Il y a davantage de liberté, liberté d'esprit et de mœurs à Paris ?
Oui. Oui, il est évident que la liberté est souvent le reflet de l'anonymat et qu'on peut se perdre plus facilement dans la foule à Paris qu'en province. Si on prend un exemple de jeune homme comme Duguay-Trouin ou le jeune Salaberry, il est évident que lorsqu'ils font des fredaines à Saint-Malo, eh bien, les parents sont au courant tout de suite. Donc, ils ne cherchent qu'une chose, c'est de partir à Rouen où ils se mêlent à la foule et puis ensuite, de Rouen, ils arrivent à Paris où, à ce moment-là, ils peuvent avoir une vie de jeune épicurien.
Je vais revenir en province, si vous le voulez bien, Michel Verger-Franceschi. En province, il y a deux mondes qui se juxtaposent. D'un côté, la ville, de l'autre côté, la campagne. Là encore, les deux sont liés.
Là aussi, les deux sont extrêmement liés, puisque en ville, la campagne est omniprésente, ne serait-ce que par l'existence de jardins, la nécessité de manger. Aujourd'hui, nous mangeons évidemment des choses que nous ne produisons pas et on achète régulièrement des yaourts, des jus d'orange, des sodas. Et sous l'Ancien Régime, on mange en général ce que l'on produit. Et donc, on a des jardins, on a des campagnes très voisines. Lorsque l'on dit qu'en période de peste, on se réfugie à la campagne, en fait, les élites partent à 4 ou 5 kilomètres de la ville. Donc, les deux mondes sont extrêmement imbriqués. Et donc, la ville et la campagne se juxtaposent. Et là aussi, le riche campagnard qui réussit est celui qui finit par partir à la ville. Quand on prend des familles comme les chanceliers d'Aligre, qui arrivent à être le deuxième personnage de l'État, le père et le fils en tant que chancelier de France, eh bien, ils sortent du pays chartrain. C'était de riches laboureurs, c'était des marchands d'eau-de-vie. Et ces marchands d'eau-de-vie, petit à petit, eh bien, ont réussi, sont partis du pays chartrain pour Chartres, puis de Chartres pour Paris, et ils sont arrivés à être chanceliers de France, et donc leurs cousins restaient marchands d'eau-de-vie donc à Chartres, sont venus mettre des panneaux en dessous de la grande chancellerie, avec sur ces panneaux déjà des publicités. Au petit hôtel d'Aligre, on vend de la bonne eau-de-vie, et messieurs les chanceliers n'étaient pas très contents, évidemment, de ces cousins qu'ils ont essayé de renvoyer ensuite à Chartres, mais tous ces mondes, provinciaux, parisiens, urbains et campagnard, rural, tous ces mondes sont étroitement imbriqués.
Alors, il faut attendre la page 173, très exactement, de votre ouvrage, ou la page 170, en tous les cas la 101e classe, pour trouver les marquis, les comtes, les vicomtes et les barons. Alors que l'inconscient collectif associe systématiquement l'Ancien Régime aux marquis, aux comtes, aux vicomtes et barons, et ils sont loin, loin, loin derrière.
Ah, ils sont loin, loin, loin. Effectivement, on est persuadé toujours que quelqu'un qui avait un titre de marquis ou un titre de baron était au sommet de la hiérarchie de l'Ancien Régime. Or, en fait, il n'y a qu'un véritable titre qui est vraiment hiérarchisé, si je puis dire, qui est celui de duc et pair. Et puis après, on a une foule de petits nobles, de hobereaux, bon, qui ont ou non des titres, qui ont des terres ou non, qui ont été érigées, puisque ce n'est pas les hommes qui reçoivent un titre, ce sont les terres qui sont érigées en marquisat, comté, vicomté ou baronnie. Mais on a donc énormément de ces nobles qui vivotent au fin fond de leur campagne et qui ne sont pas du tout donc au sommet de la société. Et puis, c'était quelque chose que l'on faisait beaucoup au séminaire de François Bluche en 1976, c'était de savoir s'il y avait une hiérarchie entre les titres. Et je me souviens donc de mon directeur de thèse qui se demandait, est-ce qu'un marquis de Carabas peut être considéré comme étant plus haut qu'un vicomte de Turenne? Il est évident que la réponse est non. Et donc, il est tout à fait faux de croire qu'un baron est en dessous d'un vicomte, qui aurait été en dessous d'un comte, qui aurait été en dessous d'un marquis. Il est évident que les titres n'ont une vraie hiérarchie, si on peut dire, que sous l'Empire. Sous l'Empire, il y aura effectivement des ducs et pairs, des comtes d'Empire et des barons d'Empire, mais sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de véritable hiérarchie entre ces différents titres.
Alors, l'autre classe, entre guillemets, hein, je la mets bien entre guillemets, je mets bien ce mot entre guillemets, c'est la question des paysans, et vous l'abordez largement, et là encore, une incroyable hétérogénéité.
Bien sûr, parce que ce terme de paysan...
On est loin du pauvre petit paysan.
Bien sûr, le terme de paysan est d'ailleurs un terme que l'on trouve surtout dans les registres paroissiaux, avec celui de cultivateur, pour le 19e siècle. Sous l'Ancien Régime, on s'aperçoit que les hommes sont brassiers, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec leurs bras et ce sont des journaliers payés à la journée. Ou alors ils sont manouvriers, c'est-à-dire ce sont des brassiers qui travaillent avec leurs mains. C'est pareil que les brassiers, il n'y a que le nom qui change, brassier plutôt dans le sud et manouvrier plutôt dans le nord du royaume. Et puis il y a une infinité donc de professions de la terre. Il y a les métayers, il y a les ménagers qui ont à peu près une vingtaine d'hectares, il y a les laboureurs qui sont riches. La Fontaine le dit d'ailleurs, le riche laboureur, bon, qui a à peu près une centaine d'hectares qu'il exploite et qui est en même temps fermier, c'est-à-dire qu'il loue à ferme les terres d'un riche propriétaire non résident, que ce soit un officier, que ce soit un ecclésiastique, que ce soit le chapitre de la cathédrale, que ce soit l'évêque, le diocèse. Et il y a donc une hiérarchie considérable parmi ces paysans. Et alors aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout ce qui se passait autrefois était très bien et que tout doit faire penser au passé, les confitures bonne maman, le café grand-mère, etc. Mais on s'aperçoit que dans un village, il n'y avait qu'un riche paysan, qu'un riche laboureur qui était le coq du village, c'est l'expression que l'on emploie, et puis il y avait une foule de serviteurs, de valets de ferme, de domestiques, qui étaient d'ailleurs, suivant les saisons, de temps en temps brassiers au moment de la moisson, au moment de la vendange, et puis l'hiver, on les retrouve donc dans les registres paroissiaux comme tisserands, comme peigneurs, comme lainiers, et la profession change en fonction de la saison, puisque lorsqu'il y a les gros travaux des champs, ils travaillent à la terre, mais l'hiver, c'est plutôt cette espèce d'immense manufacture textile, cette immense manufacture rurale, où les femmes tissent, où les hommes réparent les outils, ou bien peignent la laine, et donc ce monde de la campagne est un monde extrêmement diversifié.
Alors, je voudrais tout de même revenir sur cette notion d'utilité, parce que on a l'impression que c'est une chose nouvelle qui apparaît donc à la fin du XVIIe siècle, c'est bien cela ?
Oui, oui.
N'est-ce pas une forme de révolution, les prémices de ce que sera, sur le plan idéologique, la révolution, puisque l'utilité, finalement, renvoie à des notions comme le capitalisme, le mercantilisme, etc.
Oui, tout à fait. Le roi récompense par des lettres de noblesse, par des dons en argent tout à fait conséquents, les gens qui lui sont utiles et qui sont utiles à son royaume. Et finalement, un roi intelligent se pose peu la question de savoir si Abraham Duquesne, dont on parlait tout à l'heure, est petit-fils ou non de Cordonnier. Ce qui est important, c'est qu'il a été utile au royaume parce qu'en 1676, il a réussi, à bord de son escadre au large de la Sicile, à tuer le grand amiral hollandais Michel de Ruyter, qui est le plus grand marin du XVIIe siècle. Ruyter est tué en 1676. Eh bien, Duquesne, petit-fils de Cordonnier, va recevoir du roi un cadeau royal, à peu près 400 000 livres, pour s'acheter un château donc, qui existe toujours aujourd'hui à Étampes. Et il devient donc marquis Duquesne. Il va couper son nom à ce moment-là en deux parties, pensant, comme beaucoup de gens, que la particule est un témoignage de noblesse, ce qui n'est pas du tout la réalité. Et donc, le roi récompense les gens utiles. Et ce critère d'utilité fait que le roi, par exemple, va faire venir à Versailles pour l'accouchement de l'une de ses maîtresse, un premier médecin en obstétrique. On va commencer à avoir des premiers chirurgiens et donc jusqu'au XVIIe siècle, l'accouchement se faisait sous les draps. Un homme ne pouvait absolument pas regarder une femme en train d'accoucher dans sa nudité. Et donc, à partir du moment où le roi fait venir lui-même un chirurgien, eh bien, la noblesse ne peut plus bouder cette profession qui se sépare des coiffeurs, qui se sépare des barbiers. Et il y a donc une véritable promotion, non seulement sociale, mais une promotion des métiers. Et dans cette promotion, il y a aussi la promotion des professeurs, en particulier des professeurs de droit, des professeurs de médecine, des professeurs au Collège royal, c'est-à-dire l'ancêtre du Collège de France. Il y a une promotion de l'enseignement des matières également. On voit apparaître les maîtres d'hydrographie, parce que c'est intéressant pour la marine, ou les professeurs d'astronomie auprès des gardes de la marine. Et donc, il y a une véritable promotion de métiers nouveaux. Les ingénieurs, par exemple, les ingénieurs militaires qui sont en train d'apparaître et puis les apothicaires qui vont peu à peu vendre des produits pharmaceutiques, alors que jusqu'à présent, le sucre, par exemple, était considéré comme un produit pharmaceutique vendu par les apothicaires. Le sucre va passer peu à peu chez les épiciers et les apothicaires vont faire des emplâtres, des onguents à une époque difficile, puisque c'est celle aussi de l'affaire des poisons.
Jacques Mainville disait que toutes les périodes historiques étaient des périodes de transition. Mais là, encore une fois, je me permets d'insister, on a vraiment l'impression que nous sommes dans les prémices de la Révolution. La reconnaissance de cette utilité, il y a une utilité militaire, il y a une utilité intellectuelle, vous la décriviez. Nous ne sommes pas encore à l'utilité économique ?
On commence à être à l'utilité économique, d'où la place des fermiers généraux en particulier, qui sont vraiment très hauts dans la société, et la place de tous ces collecteurs d'impôts, ces collecteurs de taille, qui sont indispensables, puisque l'argent est le nerf de la guerre et que le roi de France a cette chance extraordinaire de pouvoir disposer de 20 millions de sujets qui paient presque tous la taille en dehors de la noblesse privilégiée, mais qui ne représentent que 2 à 3% de la société. Et donc, il y a une véritable utilité économique qui d'ailleurs se voit dans la mesure où tous les marchands et les négociants sont eux aussi hiérarchisés. Il y a le riche négociant portuaire à Bordeaux, à Marseille par exemple, à Nantes ou à La Rochelle, et puis on descend dans la société jusqu'aux petits marchands. Et alors, il y a les marchands tenant boutique, il y a les marchands qui sont aidés ou non par un aide ou par deux aides. Il y a une utilité économique qui est tout à fait certaine.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois l'historien Michel Verger-Franceschi, primé dernièrement par l'Académie française pour son livre sur Paoli, paru chez Fayard, et c'est chez ce même éditeur qu'a été publié La société française au XVIIe siècle, tradition, innovation, ouverture. Nous nous retrouvons, Michel Verger-Franceschi, après cette toute dernière pause. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la société française au XVIIe siècle. Michel Verger-Franceschi, vous êtes l'auteur du livre consacré à cette société française au XVIIe, un livre qui est l'œuvre de 30 années de travail, on peut le dire, tradition, innovation, ouverture, un livre paru chez Fayard. Alors, nous le disions au départ, au tout début de cette émission, il y a quand même une grande absente de votre ouvrage, c'est l'Église, parce que l'Église n'est pas imposée.
Et oui, l'Église ne figure pas dans le tarif de la capitation, mais les aumôniers, en particulier les aumôniers militaires, les aumôniers entretenus à bord des vaisseaux et dans les ports, eux y figurent. Et le tarif, finalement, est quand même très complet, dans la mesure où le plus célèbre ecclésiastique du XVIIe siècle, qui est un petit peu l'abbé Pierre, si vous voulez, du XVIIe siècle, et qui est Saint-Vincent de Paul, si je puis faire une comparaison un peu hardie, eh bien, Saint-Vincent de Paul a été aumônier des galères et par conséquent, à ce titre, il a été aumônier entretenu et finalement, donc, il figure quelque part dans ce tarif de la capitation. D'autre part, tous les autres groupes sociaux y sont mentionnés et on s'aperçoit, bon, que les maréchaux de France, que les vice-amiraux de France ou les lieutenants généraux ont leurs frères cadets qui sont évêques ou archevêques et par conséquent, ils appartiennent aux mêmes milieux sociaux et c'est ce que j'ai essayé beaucoup de montrer dans le livre, c'est de montrer que ce tarif de la capitation était extrêmement précis et juste parce qu'il repose sur des milieux. On voit bien qu'il y a 600 catégories et on est parfois surpris de voir des gens qui cohabitent dans une catégorie. Et ce que j'ai cherché à montrer, c'est de voir à partir des contrats de mariage, par exemple, à partir des témoins dans les mariages, eh bien que ces catégories, effectivement, elles ne cohabitent pas que dans le tarif de la capitation, elles cohabitent aussi dans la réalité, à niveau égal entre militaires, magistrats, voire artisans.
des trois qualificatifs, tradition, innovation, ouverture, j'ai tenté d'ajouter celui de révolution. Vous l'acceptez comme terme ?
Oui, parce que Louis XIV a beaucoup révolutionné les choses. D'abord, grâce à la longueur de son règne, puisqu'il il arrive sur son trône, il n'a que 4 ans et demi. Il le quitte par la mort à l'âge de 77 ans. Donc, il a eu beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Il ne les a pas faites seul. C'est un roi absolu, c'est vrai, mais c'est un roi aussi à l'écoute de ses secrétaires d'État, de Louvois et de Colbert. Colbert a été un homme d'une intelligence absolument exceptionnelle, mais qui meurt dès 1683. Alors lorsqu'on dit, par exemple, Louis XIV n'aimait pas la mer, c'est Colbert qui aimait la mer, c'est tout à fait faux, puisque entre 1683 et 1715, on a encore 32 années. Et pendant ces 32 années, il s'est encore passé beaucoup de choses sur mer, et donc Louis XIV aimait la mer beaucoup plus qu'on ne veut bien le dire. Et Louis XIV, c'est vrai, a révolutionné les choses dans de très nombreux domaines, dans le domaine du mariage, qui quelque part est en train lui aussi de se laïciser, puisque le rôle de l'État est de plus en plus pesant en matière de mariage, et donc le droit canon qui fait qu'il suffit qu'un homme et qu'une femme s'aiment et se prennent pour mari et femme devant un autel dans une église, et bien de plus en plus l'État pèse dans le mariage, et quelque part ça révolutionne les choses, et ça explique aussi cette évolution vers la laïcité de 1792, où le mariage va devenir un mariage non plus religieux, mais laïque.
Vous terminez, dans votre conclusion, vous mettez en exergue cette citation que l'on connaît peu, on connaît l'État c'est moi qui n'est pas Louis XIV mais de Voltaire. Vous citez « Je m'en vais mais l'État demeurera toujours », c'est Louis XIV. Vous commencez votre ouvrage par un avant-propos, qui est bien un avant-propos, puisque le roi ne fait pas partie, bien évidemment, du tarif. Je vous cite « Le roi de France et de Navarre est tout seul à la fois, ni tyran, ni despote, ni autocrate. Il gouverne en grand conseil, fidèle à la définition du juriste Claude de Seyssel, après avoir consulté ses ministres d'État, dont il est l'arbitre, ses secrétaires d'État, ses intendants de police, etc. » Là encore, on a l'image d'un roi très ouvert.
On a l'image juste d'un roi très ouvert, et aujourd'hui ce terme d'absolutisme est en train heureusement de passer de mode, parce que ce terme d'absolu laissait croire dans nos collèges et dans nos lycées que le roi est effectivement un personnage relativement tyrannique. On a appelé d'ailleurs Louis XVI le tyran, donc au moment de la Révolution française. Or ça n'est pas du tout la réalité. Le roi est un homme particulièrement intelligent, c'est un véritable chef d'État qui est à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute des famines, à l'écoute des disettes. Il essaye d'y remédier. En 1694, il fait frapper une médaille avec la France pourvue de blé par les soins du roi. Et donc, on a aujourd'hui une expression qui est plutôt la montée de l'État moderne, qui est une expression plus juste que la montée de l'absolutisme. Et effectivement, ce qui se met en place sous Louis XIV, avec le service des postes, par exemple, avec Louvois, à partir de 1670-72, avec les professeurs au Collège de France, on a une montée donc de l'État tel qu'il existe aujourd'hui, avec un essor des professions nouvelles, des chirurgiens entretenus, des médecins entretenus, des ingénieurs, etc.
Eh bien, merci Michel Verger-Franceschi de nous avoir décrit cette montée de l'État moderne. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La société française au XVIIe siècle, tradition, innovation, ouverture », un livre paru chez Fayard, et chez le même éditeur, un livre primé cette année par l'Académie française, « Paoli, un Corse des Lumières ». Restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.